comme annoncé, nous commençons ce matin la campagne de rentrée. Alors on est en octobre, mais c'est quand même la rentrée qui est proposée par l'Union des Églises Libres et qui s'intitule « Une espérance qui nous transforme ». Alors, elle va durer 4 semaines avec 4 prédications jusqu'au 30 octobre, avec aussi des méditations journalières pour chacun d'entre nous, avec des études bibliques pour les groupes de maison, avec des animations aussi pour les groupes d'enfants ou des groupes de familles. Et tout est dans le dossier que vous avez peut-être, enfin je l'espère, reçu par mail. Alors nous avons quelques dossiers papier encore en réserve, et il faudra s'adresser à Laurence après le culte. Donc pour des dossiers papier, s'adresser à Laurence après le culte. Alors, elle a quelques exemplaires. Si tout s'en va, on pourra en refaire pour la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas, pendant la semaine, à consulter le dossier PDF que vous avez reçu. Et si vous voulez laisser votre adresse mail pour le recevoir, n'hésitez pas à me le donner. L'espérance, elle fait partie du trio des valeurs fondamentales que Paul nous cite dans 1 Corinthiens 13. Vous savez, ce texte sur l'amour qui est lu pratiquement à tous les mariages, mais qui se termine en disant maintenant, c'est Paul qui le dit, maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Alors bien sûr, Paul, puisqu'il en parle, va dire que la plus importante c'est l'amour, mais quand même la foi, l'espérance demeure aussi. On a besoin d'espérance dans ces temps troublés et particulièrement anxiogènes que nous vivons. J'ai besoin d'espérance, vous avez besoin d'espérance, le monde a besoin d'espérance. Et pour en parler, on a choisi un homme qui s'appelle Abraham, comme disait Maryse, Abraham, et cette grande figure donc de l'Ancien Testament qui va nous accompagner pendant toute la semaine. Et on a choisi Abraham parce que c'est justement quelqu'un dont la vie a été guidée par l'espérance. Et on le voit au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où l'auteur nous dresse une galerie de héros de la foi. On pourrait dire des héros de la foi espérance, Noé, Abel et Abraham. Abraham qui occupe une grande place au nombre de versets dans cette galerie des héros de la foi. Parce qu'Abraham a eu une vie guidée par l'espérance. Et je vous invite à lire le texte de Hébreux 11, versets 8 à 19. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge, 90 ans quand même. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, on parle d'Abraham, 100 ans, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham a offert Isaac, lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, et à qui Dieu avait dit, « C'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. » Dieu, estimait-il, Abraham, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Alors, il y a énormément dans ce texte, et ça pourrait faire l'objet de beaucoup de prédications, de plusieurs prédications en tout cas, mais je voudrais en quelques points, je voudrais en tirer quelques points pour parler de cette espérance qu'incarne Abraham. Et premier point, espérer, c'est mettre sa foi en mouvement. Et je voulais mettre ces deux notions, foi et espérance, dans la même phrase parce que c'est pas si facile de les distinguer. Mais comme le dit Florence Van Colly, avec un beau nom flamand, c'est la fille de Sylvie, justement dans la page 6 du dossier, si la foi nous permet de nous reposer sur Dieu, si la foi est un ancrage pour Dieu, l'espérance est un élan vital qui nous fait avancer. On chante parfois le chant dans le J'aime l'Éternel qui s'intitule « Mon ancre et ma voile », je l'aime beaucoup, avec comme un phare dans la nuit aussi parce que j'aime les bateaux. Et l'ancre, ça pourrait être cette foi, l'ancrage sur Dieu, le repos sur Dieu, la stabilisation sur Dieu. Et puis la voile, ça pourrait être l'espérance qui nous mène au large, qui nous fait avancer. Et elle fait avancer Abraham. Il nous est dit dans Genèse 12, et qu'il quitte son pays natal, Ur, en Chaldée, où il menait certainement une existence confortable. J'ai lu quelque part que Ur, en Chaldée, c'est l'Irak encore, comme Ninive. Il y a plein de bonnes choses en Irak. C'était un haut lieu d'une civilisation économique et intellectuelle. Et il s'en va de là. Verset 8, il a cru en Dieu, il a obéi, il est parti vers ce pays que Dieu devait lui donner à posséder. Et il partit sans même savoir où il allait. Dieu ne parle pas de Canaan. Il n'est pas question de Canaan. Il n'y a pas de données GPS. Là où Abraham devait aller, il part sans savoir où il allait. Mais il part. Alors il ne part pas sans rien. Il part avec lui, les promesses de Dieu, promesses d'une descendance, promesses d'un pays, promesses d'une descendance qui deviendra un peuple, promesse d'une bénédiction pour toutes les nations, de belles promesses. Et effectivement, Abraham va fouler le pays de Canaan, mais il ne verra pas la réalisation de la promesse de possession du pays. Il faudra attendre 10 siècles pour que le pays soit vraiment en possession du peuple d'Israël. Abraham ne sait pas où il met les pieds, mais il a cette espérance et il se met en marche. Alors le paragraphe met en évidence un autre événement, nous ne parlerons que de ces deux-là, mais un autre événement où la vie d'Abraham, de la vie d'Abraham, où sa foi et son espérance est manifestée. Le sacrifice d'Isaac. Là aussi, un beau matin, il part de Beersheba et il se dirige vers la région de Moria. Moria, comme la grotte de Moria dans Le Seigneur des Anneaux. Je pense que Tolkien a choisi le même mot, dans la terre du milieu, vous savez, la grotte de Moria qui fait peur. Et Dieu va lui demander de sacrifier son fils Isaac, alors que la naissance d'Isaac s'est fait attendre, alors que Isaac est le fils de la promesse, alors que la promesse de descendance passe par Isaac, d'un peuple nombreux. qui va être comme le sable au bord de la mer. Dieu lui demande l'impensable, de sacrifier le fils de la promesse, l'inconcevable. Et Abraham obéit et se met en route. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il l'a fait parce qu'il croyait Dieu capable de ressusciter Isaac d'entre les morts. Ça, c'est, on le voit pas dans le livre de la Genèse, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit. Ce qui montre d'ailleurs bien tout le chemin de foi qu'Abraham a accompli, a parcouru tout au long de sa vie, au soir de sa vie, lors de cet événement, au sacrifice d'Isaac. Abraham fait une confiance totale en Dieu. Après son départ inconnu par la foi, sa foi s'est approfondie à tel point qu'il pouvait obéir à Dieu, même si cela pouvait paraître insensé. Abraham était guidé par l'espérance. Abraham était mu par l'espérance. L'espérance l'a mis en mouvement. Et puis, il ressort aussi de ce passage que espérer, c'est voir l'invisible. Et le verset 13 est, à mon avis, central. On y parle de tous ces gens, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes de foi de l'Ancien Testament qui sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. Merveilleuse définition, formidable façon de parler de l'espérance, mais on note que cette formidable définition commence par la négative. Ils n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Effectivement, pour Abraham, on l'a déjà dit, il n'a pas reçu en possession le pays de Canaan, ni un peuple nombreux comme les grains de sable sur la plage. Le texte nous dit même qu'une fois dans le pays, une fois à Canaan, ils n'étaient que des résidents temporaires, des gens de passage, des nomades qui habitent sous les tentes, comme Isaac et Jacob, après Abraham. Rien de permanent. Et pourtant, Abraham, et c'est extraordinaire, voyait l'invisible. Voyez ce qui n'est pas visible. Voyez l'invisible. Il voyait cette cité céleste dont le constructeur était Dieu lui-même. Abraham voyait l'invisible, même au-delà du pays de Canaan. Il voyait l'invisible, il avait l'espérance. Et en cela, il rentrait tout à fait dans la définition de la foi espérance telle qu'il est dit dans Hébreux 11:1. La foi est une façon de posséder les choses qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Espérer, c'est tenir pour vrai les choses qu'on ne voit pas. C'est voir l'invisible. C'est tenir pour vrai les choses que nous n'avons pas encore reçues. Et nous avons ce point commun avec les croyants de l'Ancien Testament. Nous avons reçu de nombreuses promesses. Mais beaucoup de ces promesses ne vont pas s'accomplir de notre vivant. Notre vie sur cette terre est faite d'inachèvement, d'inaccomplissement, de choses non accomplies. Nous ne vivons pas aujourd'hui dans un état de plénitude absolue. Il ne faut pas se mentir, il y a dans la vie chrétienne des hauts et des bas, des insatisfactions, des déceptions, des frustrations, des conflits, des luttes intérieures. Ça fait partie de la vie chrétienne. Nous n'avons pas tout reçu. Même Paul nous parle de tiraillement intérieur dans l'Épître aux Romains, la lettre qu'il adresse à l'Église de Rome, au chapitre 7. Et je suis de ceux qui pensent que Paul parle de sa vie chrétienne actuelle et non pas d'avant sa conversion. Mais il nous parle de son tiraillement intérieur. Il nous dit « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. » Et il va dire plus tard, « Je suis tellement malheureux de ces tiraillements. » Il n'y a pas la plénitude absolue dans la vie chrétienne, et même dans la vie tout court. Toutes les promesses ne sont pas réalisées, et l'espérance chrétienne n'est pas de penser que tout nous est donné ici-bas, que tout nous serait donné maintenant, le succès, la prospérité, la guérison complète, la santé jusqu'à 85 ans au moins. Il ne faut pas prêter à Dieu des promesses qu'il n'a pas faites. Ce serait une mauvaise compréhension de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'espérance chrétienne ne nous épargne pas les épreuves et les frustrations. Elles font partie de la vie, mais elle permet de voir l'invisible. C'est-à-dire qu'elle permet d'intégrer ces inachèvements dans une perspective finale. Et elle permet de surmonter ou d'accepter les épreuves comme faisant partie de la réalité d'aujourd'hui qui n'est pas encore dans le plein accomplissement des promesses de Dieu. Sachant qu'un jour, elles se réaliseront, ces promesses. L'espérance chrétienne nous permet aussi de voir les bénédictions que nous recevons, non pas comme un dû, mais comme une grâce, comme un cadeau, comme un avant-goût de ce qui nous attend lorsque ces promesses s'accompliront. Alors il faut quand même ajouter que pour Abraham, il y a eu une réalisation partielle de la promesse, avec la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, le premier-né de la descendance d'Abraham, et il y a des réalisations partielle de la promesse de Dieu. Et pour nous, Et on l'a chanté tout à l'heure, il y a cette réalisation partielle de la promesse du salut. En Jésus-Christ, il est venu parmi nous, il est l'Emmanuel. Il est mort pour nos fautes sur une croix abominable. Il est ressuscité d'entre les morts, le premier ressuscité de nombreux ressuscités dont nous faisons partie si nous sommes à lui. Et vous savez, moi, quand je manque d'espérance, quand je suis un peu dans un down dans ma vie, je pense à la résurrection de Jésus-Christ. Il est vraiment ressuscité, comme le dit la parole, ce n'est pas une vision mystique, ce n'est pas une affabulation, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il est vraiment ressuscité et je vais vivre de cette résurrection. Sa résurrection, cette réalisation partielle de la promesse nourrit mon espérance. Alors oui, il y a des réalisations partielles, mais nous n'avons pas tout reçu des promesses de Dieu. La vie éternelle, la résurrection finale lors du retour de Jésus-Christ, la création totalement renouvelée, libérée de l'empreinte du mal, nous sommes encore dans l'espérance par rapport à ces promesses-là. Je lisais quelque part qu'il y a un mouvement écologique chrétien allemand qui s'appelle Hoffnung für Mensch und Natur. L'espoir, Natur. Espoir pour l'homme et la nature. Un beau nom pour ce mouvement écolo chrétien. Mais qui montre que pour notre planète comme pour l'humanité, nous sommes encore dans l'espérance. Une belle espérance. Verrons-nous la réalisation des promesses de notre vivant? Le pasteur qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, dont je parle souvent, George Winston, pensait que Jésus allait revenir de son vivant. Il ne l'affirmait pas, mais il le pensait. Ça n'a pas eu lieu. On ne sait pas si ces promesses se réaliseront de notre vivant. Mais depuis 2000 ans, des chrétiens espèrent dans ces promesses et meurent sans les avoir vues s'accomplir. Mais ces promesses sont là pour nous tenir debout, pour nous mettre aussi en mouvement, pour nous faire avancer vers cet horizon-là qui est l'accomplissement à venir des promesses de Dieu, non pas comme des simples spectateurs de l'histoire ou de notre histoire, comme si on se trouvait dans une salle d'attente du royaume, mais comme des acteurs de cette belle histoire d'amour que Dieu entretient avec les hommes et les femmes et avec cette belle planète qui nous est donnée et qui souffre aujourd'hui peut-être plus qu'elle n'a jamais souffert. Non, espérer, ce n'est pas simplement attendre. Espérer, c'est aussi anticiper la réalisation des promesses de Dieu. Le verset 13 encore. Ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. L'expression est quasi poétique, mais elle est magnifique. Ils l'ont salué de loin. Imaginons que vous êtes dans un bateau qui vous transportait et vous arrivez au. Et là, vous êtes sur le bateau et vous voyez des personnes de votre famille qui vous attendent à quai. Ils sont encore loin. Il faudra du temps pour que le bateau fasse toutes ses manœuvres et qu'il accoste. Mais vous les saluez de loin. Vous savez que ce n'est pas pour tout de suite. Ils sont loin. Vous n'êtes pas encore avec eux. Mais c'est tout comme. Vous les saluez et en même temps vous anticipez les retrouvailles et les embrassades qui auront lieu sur le quai. Et vous en ressentez du plaisir et de la joie par anticipation. Vous les saluez de loin et vous anticipez ces retrouvailles et ces embrassades. Et c'est la même chose avec cette espérance qui est une anticipation forte des promesses de Dieu réalisées. On voit de loin, on n'y est pas encore. Mais c'est tout comme. On vit déjà la joie de la réalisation, la joie de notre voyage sur cette terre qui se termine au quai de l'éternité, la joie de l'arrivée au port de la nouvelle création. On n'y est pas encore. Mais on anticipe la joie, la plénitude, le sentiment d'accomplissement d'être arrivé au bout du voyage. La foi, l'espérance nous permettent de vivre cette joie, une joie peut-être sobre ou modérée, ou même exubérante selon les caractères. Une joie parce qu'elle nous permet de, l'espérance parce qu'elle nous permet de voir au-delà de nos incertitudes et de nos inquiétudes d'aujourd'hui, au-delà des nuages sombres qui s'amoncellent au-dessus de notre tête, au-delà de nos tempêtes qui bousculent notre vie, une espérance qui transforme la vie. Ils n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. C'est là notre espérance. Et un dernier point, en guise de conclusion, espérer, c'est vivre. On dit souvent de manière un peu péjorative ou moqueuse, « Oh, l'espoir fait vivre. Tu prends ça, toi ? Oh, l'espoir fait vivre. » Mais en même temps, c'est vrai. L'espoir fait vivre. Et l'espérance, plus encore. L'espérance fait vivre. Espérer, c'est vivre. Espérer, c'est vivre parce qu'avec une espérance, la vie vaut la peine d'être vécue. Avec toutes les frustrations, les déceptions, les épreuves, cette vie vaut la peine d'être vécue si elle connaît l'espérance. Et sans espérance, qui a-t-il sans espérance ? Je me rappelle l'apôtre Paul qui disait que sans l'espérance, nous étions de la résurrection, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais Christ est ressuscité, l'espérance est possible, l'espérance est pour toi, l'espérance est pour moi, comme elle l'a été pour Abraham et tous ces gens de l'Ancien Testament. L'espérance du Christ vivant, au Christ vivant, donne à notre vie un sens, elle nous ouvre un horizon sur l'éternité, et c'est ça qui change tout. Ne devrions-nous pas retrouver cette espérance ? Et tant qu'on y est, ne devrions-nous pas également la partager avec ceux qui nous entourent.